ラジオオカピ
オカピ
オカピservice, une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Au Capi Service, une adresse pour trouver solution à vos préoccupations.
Au Capi.
Merci d'écouter Radio Capi, la fréquence de la paix. Bienvenue dans cette deuxième partie de votre magazine de la vie au quotidien au Capi Service. Que faut-il faire pour prévenir les hépatites virales? En RDC, on en parle avec le docteur Tshamala Pascal, coordonnateur du projet RDC Tokolonga Hépatite. Il est avec nous dans ce studio. Docteur Tshamala Pascal, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle, si vous êtes intéressé ou voulez intervenir, le numéro pour nous envoyer un message vocal, c'est les 099-706-99-41. Voilà, Hippolyte Basunga est là, à la mise en onde de Tatima Pokola, à la réalisation et coordination de ce magazine présenté par Marcel Ngomobala, sous la supervision de Jean-Marc Matwaki.
Voilà Milambo, Milambo pour Belongo.
Le sport sur Radio Capi, c'est une question de conditions physiques. Imaginez partir de Kinshasa en 800 mètres et débarquer en Mbandaka en canoë-kayak, franchir les forêts de la province orientale en saut en hauteur, décrocher une médaille de bronze à Lubumbashi, traverser le lac Kivu à la nage, style papillon et j'en passe. Okapi Sport est un ensemble des correspondants et une équipe de présentateurs bien en forme. Vous apportez l'information sportive là où vous vous trouvez. Okapi Sport, car la passion du sport est sur Radio Okapi.
Les hépatites virales sont des infections peu connues par une majeure partie de la population congolaise. On estime environ 720 millions de personnes infectées dans le monde, avec près de 7 millions de Congolais victimes tout à fait ignorantes de cette maladie, qui sont donc infectées des hépatites sur l'ensemble du territoire national chaque année. Et les hépatites virales sont à la base des décès de plusieurs personnes dans les hôpitaux de la RDC. Chaque année aussi, selon nos sources. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir les hépatites virales en RDC? Quels sont les facteurs de risque? Et comment se fait la prise en charge médicale des hépatites en RDC? Les réponses à toutes ces questions avec notre invité qui est avec nous dans ce studio, je l'ai dit, Dr Tshamala Pascal, coordonnateur du projet RDC Tokolonga Hépatite. Et je rappelle le numéro, si vous voulez intervenir, faites-nous un message vocal au 099-706-99-41. Dr Tshamala Pascal, c'est encore un grand plaisir, hein, en tout cas pour nous de vous revoir dans nos studios pour parler de cette lutte que vous menez, hein, dans, contre les hépatites virales à travers ce projet Tokolonga Hépatite. Alors, avant de parler de tout ce que vous faites pour aider la population à mieux être informée sur cette maladie, si on peut d'abord savoir pourquoi on parle des hépatites. Pourquoi on ne dit pas simplement hépatite, mais pas des hépatites?
Ok, on parle des hépatites parce que, comme vous avez dit, nous allons parler aujourd'hui des hépatites virales.
Virale, oui.
Mais il n'y a pas que les virus qui sont responsables des hépatites, mais il y a aussi certains autres facteurs qui sont responsables des hépatites, par exemple l'alcool. Hein. Là, vous avez affaire à des hépatites toxiques. Il y a certains médicaments qui vont entraîner une inflammation du foie. Alors, ces éléments sont responsables des hépatites. Donc, ici, on parle plus des hépatites virales parce que ces hépatites-là vont passer à la chronicité et provoquer les maladies dont vous venez de parler, hépatite, cirrhose et malheureusement, le cancer et la mort.
Alors, dites-nous un peu, docteur, quels sont les différents types de ces hépatites virales?
Alors, il y a plusieurs types de virus. A, B, C, D, E. Alors, il y a surtout le virus B et C, qui sont les virus qui vont passer à la chronicité et qui vont provoquer les maladies et qui constituent un danger, une menace pour le monde. Comme vous venez de dire, 758 millions, c'est beaucoup. Mais souvent, on parle de 400 millions, mais c'est quand même beaucoup aussi. Dans notre pays, nous n'avons pas, malheureusement, des chiffres exacts. Alors, au courant de cette année-ci, pour vaincre l'hépatite, il faut d'abord bien connaître son profil. Et nous allons faire l'effort de connaître son profil, mais d'après ce que on sait, il y a plus ou moins 8%, je dis bien 8% de personnes qui sont victimes de cette maladie et seulement 15% qui savent qu'ils ont cette maladie.
Alors pour ceux qui nous suivent et qui ont déjà entendu parler des hépatites et qui aimeraient savoir c'est quoi une hépatite et quand est-ce qu'on dit que c'est une hépatite virale et puis pourquoi il y a l'hépatite A, B, C, D et...
Ok, une hépatite c'est une inflammation du foie. Comme on dit, une gastrite c'est une inflammation de l'estomac. Une stomatite, c'est une inflammation de la bouche. Et donc, ici, une hépatite, c'est une inflammation du foie. Alors, le foie peut être inflammé par les virus. Alors, on va parler de hépatite virale. Ah, ça peut être l'hépatite virale A, B, C, D ou E. Et donc, ça, ce sont les types de virus qui existent qui peuvent enflammer le foie. Mais dans ces 4-5 types de virus, on retient surtout les virus B et le virus C parce que ces virus-là travaillent en silence et tuent en silence aussi. Et donc, ils sont très dangereux. Et enfin, il y a les virus toxiques. Comme je vous ai dit, l'alcool peut aussi entraîner le virus. D'ailleurs, c'est ce qui est connu plus dans notre société. Les gens pensent qu'il n'y a que l'alcool qui peut provoquer les hépatites, mais non, il y a aussi les virus, le virus B et le virus C.
Vous avez dit c'est la maladie évolue silencieusement, c'est-à-dire que le signe n'apparaît pas aussi vite que ça. On peut déjà voir la maladie, mais les signes apparaîtront plus tard. Et là, maintenant, parlez-nous de ces signes qui peuvent apparaître plus tard et que faire pour découvrir ces signes, pour savoir avant qu'on a l'hépatite virale B ou C.
Effectivement, ces deux virus-là agissent en silence. Parce qu'effectivement, il peut vous être transmis à la naissance par votre maman ou par le personnel soignant qui n'a pas bien nettoyé ses instruments. Ils vont vous transmettre le virus et vous allez vivre avec ce virus pendant presque 40, 50 ans. Et à un certain moment, les signes apparaissent. Les signes, c'est quoi? Vous avez une température qui dure longtemps. Vous avez, après cette température, vous avez les yeux ou la peau qui devient jaune, on appelle ictère. Après que cet ictère soit parti, parce que c'est comme ça, suivant les étapes, vous êtes sujet d'une fatigue extrême. Donc ces trois signes-là, c'est la température, l'ictère et la faiblesse, la sténie. Et donc, une fois que vous avez fait, souvent ça c'est la phase aiguë, hein, c'est lorsque la maladie se manifeste, la phase aiguë. Et puis vient ensuite la phase chronique, c'est-à-dire la phase où vous allez vous débarrasser du virus, où il va rester longtemps chez vous. Quand vous vous débarrassez du virus, vous êtes dans 80% de personnes, effectivement, lorsqu'ils ont attrapé le virus, ils peuvent, grâce à notre système immunitaire, nous pouvons nous débarrasser spontanément du virus. Ça, c'est dans les 80% des cas. Mais les 20% qui vont rester, malheureusement, le virus va évoluer d'une façon silencieuse et c'est seulement vers la fin de la vie, vers le moment où vous allez vraiment entrer dans la vie active, une quarantaine d'années, cinquantaine d'années, qui vont apparaître les signes comme la cirrhose. Et encore, la cirrhose, elle non plus n'a pas de signes. C'est seulement quand elle est compliquée. Après la cirrhose, il y a même des gens qui vont manifester d'emblée un cancer du foie. Excusez-moi. Et le cancer tue. Et il y a même des gens qui meurent dans un tableau de cancer. Mais dans notre civilisation, dans notre culture, on parle plus de l'endoki ou des histoires comme ça qui sont provoquées par la famille. Non, ça n'a pas été provoqué par la famille, ça a été provoqué par le fait que à un moment de votre vie, vous avez été en contact avec le virus. Et ce moment, c'est quoi? C'est si vous êtes transfusé.
Justement, c'était, en vous entendre parler, j'étais déjà pressé de vous poser la question, savoir le docteur. Parlons-nous de mode de transmission de cette maladie qui évolue à bas bruit.
Voilà. Et en fait, elle évolue à bas bruit dès l'enfance, dès la naissance. Une maman qui est positive du virus va transmettre cette maladie à son enfant à la naissance. Ce n'est pas une maladie qui va se transmettre d'une façon parce que vous êtes l'enfant d'une maman qui a ça. Non, ça va se transmettre à travers le sang. Et donc, dès la naissance. Alors, il y a aussi les transfusions sanguines. Lorsque vous êtes sujet d'une transfusion sanguine, vous pouvez attraper. Il y a aussi par le sexe. Si vous êtes en relation avec une personne qui est positive, vous risquez aussi d'être contaminé. Si vous êtes...
Quand vous dites une personne qui est positive, qui a déjà le virus. Hein?
Oui, c'est voilà. Ça, qui est déjà le virus. Oui. C'est celui-là qui va vous transmettre. Oui. Donc, ça se transmet toujours du sang infecté au sang non infecté. Donc, le virus passe par là. Et c'est chaque fois avec un objet tranchant. Par exemple, si vous êtes fait opérer d'une simple appendicite avec un bistouri qui est contaminé, eh ben vous risquez d'attraper le virus de l'hépatite B ou le virus de l'hépatite C. À ce moment-là, il va rester dans votre organisme et provoquer ce comme je dis là, soit qui va être chassé de l'organisme, soit qui va rester à la chronicité.
Alors, s'il faut parler de ces différentes voies de transmission, c'est pour toutes les hépatites virales qui se transmettent soit par sang, soit par le sang contaminé, ou bien soit aussi par voie sexuelle.
Oui, effectivement, la majorité des virus va se transmettre par le sang. Mais il y a par exemple le virus de l'hépatite A qui, lui, va se transmettre par voie digestive avec les aliments infectés, etc. Mais le virus B et le virus C vont, eux, se transmettre par le sang, soit parce que vous vous êtes blessé et que vous avez eu en contact avec un sang infecté, soit parce que vous avez fait une anémie et qu'on vous a transfusé du sang infecté, soit que vous êtes entré en relation sexuelle avec une personne préalablement infecté, qu'il ne le sait pas, parce que c'est ça aussi le problème de ce virus. Vous ne savez pas que vous avez le virus. Alors, vous allez avoir un comportement tout à fait humain, sans savoir que votre comportement humain va infecter, va transmettre le virus de personne en personne. Et voilà quoi. Actuellement, dans le monde, on a plus ou moins 400 millions de personnes qui sont atteintes sans savoir qu'ils sont atteints par une voie ou par une autre.
Docteur, vous avez parlé de mode de transmission de ces hépatites virales. Vous avez également parlé de signes qui peuvent apparaître plusieurs années après. Alors, on va beaucoup insister sur le mode de prévention parce que notre maladie évolue silencieusement. Et je pense que le mieux à faire, c'est souvent... sensibiliser sur le moyen de prévention. On va y revenir. Le temps pour moi de jeter rapidement un coup d'œil sur cette réaction qui nous vient de Christian Politassi qui a réagi sur la page Facebook au Capi Service. Et il nous écrit ceci. L'une des causes de mortalité due aux hépatites, c'est le manque d'information car nombreux sont des Congolaises et Congolais qui sont sous-informés de l'existence et le mode de prévention des transmissions de cette maladie. Et donc la disponibilité de l'information, la sensibilisation sensibilisation radiophonique et autres plateformes de la communication font bien évidemment partie intégrante du mode de prévention de ces hépatites virales. C'est Christian Politas ici de Kinshasa. La prévention, il faut prévenir.
Effectivement, Christian a tout à fait raison. On dit en lingala kozanga koyeba ezali liwaya ndambu. Donc celui qui ne sait pas, il est presque mort en fait. Parce que la prévention, c'est surtout l'information sur la maladie, sur les virus. Comment, quels sont les virus? Comment agissent-ils? Quelles sont les conséquences de leur action? C'est ça la prévention. C'est ça le mode le plus important qu'on doive utiliser. Et d'ailleurs, je remercie Okapi d'avoir adhéré à ça. C'est parce que les gens ont l'information que deuxième phase, c'est le dépistage. Vous devez, lorsque vous avez reçu l'invitation, ou plutôt l'information, vous devez absolument aller dans votre zone de santé. Il est mis ou il va être mis en place un service qui va tester les gens qui viendraient, qui sont informés, pour pouvoir savoir quel est leur statut sérologique. Parce que souvent, comme je vous ai dit, c'est silencieux. La personne ne sait pas qu'il a atteint le virus. Il est vrai que au moment où on vous transfuse, vous pouvez faire comme une grippe. Vous allez vous dire, bon, ce n'est qu'une grippe, et puis en fait...
Ça passera.
Oui, et en fait, la grippe va passer, le syndrome grippal va passer, mais le virus reste en vous, et il va travailler vraiment lentement, mais sûrement, pour que votre foi soit en difficulté, et que vous mouriez. Et d'ailleurs, cette année-ci, le mot... Ou plutôt, le thème retenu cette année-ci, c'est une vie, un foie, pour un monde débarrassé des hépatites.
Une vie, un foie, pour un monde débarrassé des hépatites. Le thème de cette année est dans le cadre justement de ce projet RDC Taureau Long Hépatite. En tout cas, c'est vraiment à votre cheval de bataille de sensibiliser la population sur cette maladie qui est presque méconnue, mais alors qui fait des ravages parce que elle évolue silencieusement. Alors, qu'est-ce que ce projet initie déjà comme réalisation pour aider vraiment la population à mieux être informée sur cette maladie, et pour ceux qui sont en train de nous suivre, qui peut-être se disent non, c'est important de bien se renseigner par rapport à cette maladie. Qu'est-ce qu'il faut faire?
En fait, le problème des hépatites, c'est un problème mondial. Alors, le monde entier a mis en place un plan qui consiste à faire en sorte que d'ici 2030, on soit débarrassé de la menace des hépatites. Alors, notre gouvernement a réactivé un programme qui existe pourtant depuis 2003, le Programme national de lutte contre les hépatites, qui va maintenant se charger de conduire et de coordonner les activités autour de la menace des hépatites pour que, progressivement, que d'ici 2030, nous aussi, au Congo, tokolonga hépatite. Voilà, c'est un programme mondial. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons déjà obtenu que le programme national de lutte contre les hépatites soit réveillé, soit remis en selle. Maintenant, nous sommes en train de mettre en place une organisation qui ferait que notre action principale va partir, notre champ opérationnel au niveau du programme national de lutte contre les hépatites, et ce sont les zones de santé. Les zones de santé, il y a 516 zones de santé dans ce pays. C'est pour cela que dans notre programme, on dit jusqu'au fond, jusqu'au bout, jusqu'au fond, c'est-à-dire nous irons jusqu'aux 516e zones de santé, et jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'en 2030, même au-delà, nous allons continuer notre lutte contre les hépatites.
Alors, et qu'est-ce que vous faites pour une sensibilisation justement de proximité à pour que la population soit mieux informée.
Bon, voilà. D'abord, nous acceptons l'invitation de Okapi pour pouvoir... on sait que Okapi a une audience extraordinaire. Oui. Et donc, tous ceux qui suivent, comme Christian tout à l'heure, sont déjà sensibilisés avec ce que nous faisons. Mais au niveau des zones de santé, nous avons des relais communautaires qui passent de communauté en communauté pour pouvoir... transmettre ce message. Attention, l'hépatite, les virus des hépatites B et C tuent. Et donc, vous pouvez être sauvé si vous êtes détecté à temps. Et effectivement, actuellement, si vous êtes détecté à temps, on sait que vous avez l'hépatite B, on sait que vous avez l'hépatite C. En activité ou endormi, on sait quelles mesures médicamenteuses on va prendre pour pouvoir vous guérir. Et on peut guérir d'un cancer en prévenant le cancer. Et donc, il est vraiment très important que nous puissions réussir cette sensibilisation pour pouvoir aller vers la guérison et surtout vers le progrès ou vers le développement humain. Parce que dites-vous bien que au monde, nous sommes avec 17 objectifs du développement durable. 17. Eh ben, ces objectifs ont été fixés par la communauté internationale pour que d'ici 2030, nous puissions arriver à la santé et au bien-être. Dans ces 17 objectifs, le troisième objectif, c'est la santé et le bien-être. Et le troisième sous-objectif, c'est l'élimination de la menace des hépatites virales. C'est pour vous dire que c'est important. Si nous parvenons à vaincre les hépatites, je vous assure que on aura vaincu, on aura atteint 11 des 17 objectifs du développement durable. D'où l'importance.
Voilà, bienvenue si vous nous rejoignez sur la fréquence de la paix, c'est votre magazine de la vie au quotidien Capi Service. Nous parlons de ce qu'il faut faire pour prévenir les hépatites virales en RDC avec le docteur Tshamala Pascal, coordonnateur du projet RDC Tokolonga Hépatite. Si vous voulez intervenir, faites-nous un message vocal au 099-706-9941. J'insiste, faites-nous seulement un message vocal et puis on va vous passer sur nos antennes.
À partir du lundi 17 juillet sur sa bande FM et sur ses plateformes digitales, des dossiers, reportages, interviews, portraits, magazines et émissions spéciales aux couleurs des 9e Jeux de la Francophonie qui auront lieu à Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2023. Radio Capi, pour que les 9e Jeux de la Francophonie ne soient pas qu'un simple jeu.
Tout vous avez dit, il y a différents types d'hépatites virales. Vous avez parlé des hépatites A, B, C, D, E, mais le plus courant, ce sont les hépatites B et C. Et vous avez insisté sur le fait qu'il faut un dépistage précoce de cette maladie, parce que c'est une maladie qui évolue silencieusement et dont les signes apparaissent plus tard. Alors, à quel moment peut-on laisser faire dépister?
Eh ben, par exemple, en sortant de ce studio, vous pouvez aller au niveau de votre zone de santé, pouvoir vous faire dépister.
Ah, il ne faut pas attendre. Peut-être que vous avez des signes de fatigue.
Non, il ne faut pas attendre les signes. Non, il ne faut pas attendre les signes. Dès que vous avez l'information, essayez de voir est-ce que moi je suis concerné par ce qu'on vient d'entendre. Si vous êtes concerné, il y a toute une chaîne que vous pouvez suivre et qui va vous conduire vers la guérison, vers vous débarrasser du virus. Si vous vous débarrassez du virus, vous débarrassez votre famille aussi. Vous allez débarrasser ceux que vous aimez et vous allez débarrasser le Congo de cette menace du virus des hépatites B et C.
Donc c'est très important d'être dépisté précocement, ça vous permet d'être pris en charge rapidement et puis d'avoir beaucoup de chances d'être guéri. Mais alors, si le dépistage s'est fait trop tard et que la maladie a déjà vraiment évolué, quels sont le véritable danger et c'est quoi généralement le traitement des hépatites virales?
Eh bien justement, quand vous êtes dépisté à temps,
oui.
On trouve que vous êtes négatif pour l'hépatite B. Alors, si vous êtes une personne à risque, on peut vous vacciner parce que le vaccin existe.
Ici en RDC.
Voilà. Bon, quand je dis si vous êtes une personne à risque, c'est quoi? C'est qui, par exemple? C'est un personnel soignant, hein, qui s'occupe des gens qui peuvent être infectés. On peut vous vacciner. Et d'ailleurs, dans beaucoup d'hôpitaux dans le monde, quand vous êtes professionnel de santé, que vous devez travailler dans un hôpital, on doit vous tester. Et si vous êtes négatif, on doit vous vacciner. Et donc, c'est déjà première étape. Alors, voilà, on vous a testé négatif. Mais si vous êtes positif, et pour les virus de l'hépatite B et pour le virus de l'hépatite C, il est possible, il existe un schéma de prise en charge que nous conseillons à tous ceux qui prennent en charge les malades d'hépatite de pouvoir s'en imprégner pour pouvoir l'utiliser d'une façon ordonnée. Et donc, si vous êtes positif pour les virus de l'hépatite B, il y a essai, il y a une série d'examens que nous allons faire pour confirmer cela, les prises de sang. Nous devons aussi faire ce qu'on appelle une évaluation du foie, parce que c'est la victime, c'est le foie, c'est à partir du foie que tout ça va partir. Et alors, on va connaître l'état des lieux du foie. Et une fois qu'on connaît l'état des lieux du foie, suivant le stade, nous allons pouvoir vous mettre sous traitement. Contre le virus de l'hépatite B, c'est pendant 6 mois au moins, mais parfois ils vont jusque toute la vie pour prendre ces médicaments. Pour l'hépatite C, c'est souvent 3 mois. Et c'est là où le problème va se poser encore. Vous avez fait l'effort de vous faire dépister. Vous êtes éligible au traitement. Mais le problème, c'est comment vous allez vous faire traiter, parce que le coût des médicaments, c'est ça qui fait que beaucoup de gens sont là, les bras croisés, en attendant une mort qui est signée là, déjà à l'avance. Pourquoi? Parce que
le traitement coûte excessivement cher.
Oui, le traitement dans le monde, hein, dans je ne dirais pas seulement chez nous, mais dans le monde, il coûte extrêmement cher. Parce que, par exemple, pour le virus de l'hépatite B, vous devez prendre au moins $100, hein, par mois pour pouvoir être traité pendant 6 mois. Bon, si vous avez de la chance, vous aurez $600, mais je ne sais pas combien de gens. Mais comme je vous ai dit, parfois, c'est toute la vie que vous devez vous prendre ces médicaments contre le virus de l'hépatite B. Parce que sinon, en plus, à cause des résistances qui commencent à se manifester, les complications commencent à venir. Et donc, vous devez au moins avoir $600, ce qui n'est pas évident. Pour l'hépatite C, vous devez avoir au moins, seulement pour le traitement, $1,030. Pour pouvoir combler tous les 3 mois. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont $1,030. Alors, dans d'autres pays, ces médicaments coûtent aussi cher, si pas plus cher, mais ils se sont organisés. Ils se sont organisés comment? En faisant ce qu'on appelle des mutuelles de santé. Alors, ces mutuelles de santé couvrent les coûts des médicaments et qui fait que l'accès à ces médicaments est facilité, les gens payent moins cher. Alors, chez nous ici, c'est vrai, le gouvernement nous a promis une couverture sanitaire universelle. C'est-à-dire que les maladies seront couvertes si jamais vous en êtes victime. Mais le problème, c'est que la couverture santé universelle, qui existe déjà dans certains pays, a mis combien de temps, hein, pour pouvoir, dans des pays où il y a des économies formelles, pour pouvoir être mises en place. Dans notre pays, la majorité de l'économie est informelle. Alors, je vous assure, c'est un défi. Je suis sûr qu'ils vont réussir, mais ça va prendre
ça
du temps.
Ça prend quand même du temps, hein? Oui.
Ça va prendre du temps, mais pendant ce temps, les gens meurent. Vous venez de dire que par jour dans le monde, par mois dans le monde, 1 million de personnes meurent. Et donc, c'est vous dire que nous ne pouvons plus attendre. Nous ne devons pas attendre. Alors, nous avons imaginé d'inviter les Congolais à manifester un peu plus de solidarité. Hein, vis-à-vis du prochain. Ce sont les plus chrétiens dans le monde. Et donc, on s'est dit que nous allons proposer, que chacun puisse sacrifier 2 jours seulement de téléphone. Parce que 2 jours de téléphone, ça vous coûte plus ou moins 5 $. 2 jours par mois, vous dites, bon, je vais garder les 5 $ pour pouvoir le verser dans la cause des hépatites. Et donc, si vous versez 2 jours de choses, ça fait 5 $ par mois pendant 12 mois, nous allons économiser 60 $. Si nous sommes 10 000 à faire ça, nous aurons plus de 600 000 $. Et donc, avec 600 000 $, la personne qui participe à cela et qui est victime, je vous ai dit que dans notre pays, c'est plus ou moins 8% des personnes. Et donc, sur 100 personnes qui cotisent, il n'y a que 8 qui ont besoin de cet argent pour se faire traiter. Ben, à ce moment-là, le 1 030 $, c'est par terre. Ça va être peut-être 20 $, peut-être 10 $, peut-être 5 $. Et vous voyez que par solidarité, j'insiste, par solidarité avec nous-mêmes, comme disait le vieux Kabila, en disant comptez d'abord sur vous-mêmes. Et donc, sur nous-mêmes, nous pouvons effectivement colon à hépatite.
Alors, justement, colon à hépatite, vous l'avez dit, il faut vraiment une solidarité autour de cette maladie, parce qu'en vous suivant, c'est vrai, on peut déjà être dépisté, à faire un dépistage précoce, mais lorsqu'on est dépisté positivement, il y a aussi maintenant le traitement qui coûte énormément cher, et là, on sait que à regarder de près le pouvoir d'achat des Congolais, on sait que c'est pas donné à tout le monde, hein, en tout cas débourser autant d'argent pour être soigné. Alors cette question qu'on peut se poser au niveau de votre projet, de ce projet Tour Long Hépatite, est-ce que vous essayez de frapper à toutes les portes, vous essayez de voir, parce qu'on sait que c'est pas l'argent qui manque dans ce pays, est-ce que vous avez mené des actions comme ça pour arriver à sensibiliser ceux qui ont, soit les gouvernements, soit ceux qui sont vraiment nantis, de se pencher dans la lutte contre les hépatites virales?
Absolument, nous faisons tout pour d'abord aider le gouvernement à prendre en charge. Parce oui. que le gouvernement a un pouvoir, un devoir légal de prendre en charge la population de son pays. Alors, non seulement il a fait l'effort de sortir ce programme, mais maintenant, il doit doter ce programme des ressources qui peuvent permettre que, par exemple, qu'on mette des dépistages dans toutes les zones, dans les 500 zones de santé de la République, d'une part. D'autre part, le gouvernement, avec tous les partenaires, c'est lui le facilitateur. C'est lui le facilitateur qui va aller vers ses donateurs, etc., de pouvoir plaider notre cause, de dire, bon voilà, chez moi, nous avons autant de patients qui sont positifs, aidez-nous à pouvoir les traiter, parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Si au monde, on parvient à éradiquer la menace du virus et l'hépatite, qu'il reste seulement la RDC qui a ça, eh ben le monde ne sera pas sauvé. Et donc, nous devons avoir une certaine solidarité internationale. Mais comme je disais tout à l'heure, on ne doit pas toujours attendre qu'on nous donne. Nous pouvons, comme je viens de le montrer, décider de pouvoir d'abord nous présenter nous-mêmes, nous aider nous-mêmes, et les autres viendront en appui. Et c'est ce que nous faisons. Nous avons organisé des séances de sensibilisation, surtout dans les églises, dans les universités, dans les écoles, dernièrement, à l'occasion de la journée mondiale, l'université du révérend Kim, que je félicite, que je remercie, a organisé une séance de sensibilisation. Il y avait beaucoup d'étudiants qui étaient là. Donc, nous sommes là, conscients que un des axes pour vaincre la menace des hépatites, c'est la sensibilisation. Kozanga koyeba, ezaliwa yandamu.
Docteur, on va certainement, avant de boucler ces sujets, vous allez faire un message certainement à l'Igala pour aider à ceux qui peut-être ne maîtrisent pas très bien certains mots utilisés lorsqu'on est en train de parler de ces hépatites virales. Alors, est-ce qu'il y a une catégorie des personnes qui sont plus prédisposées et attraper à être contaminé à souffrir des hépatites virales?
Effectivement, Vous avez compris dans ce que j'ai dit que, en fait, la transmission du virus B et du virus C de l'hépatite, c'est une transmission qui se fait de la même façon que le VIH.
Oui.
Et donc, c'est surtout ceux qui pratiquent les sexes sans préservatif qui vont être victimes. D'une part. D'autre part, c'est par exemple les gens qui nécessitent des transfusions sanguines. Les gens qui nécessitent les transfusions sanguines dans notre pays, ce sont les jeunes enfants. Quand ils font un paludisme, ils détruisent les globules rouges et ils sont anémiques. Et voilà, ils ont nécessairement besoin d'être transfusés. Si notre sang ou le sang qu'on leur donne n'est pas un sang tout à fait débarrassé des virus de l'hépatite, eh ben les enfants surtout. La pyramide, hein, elle est beaucoup plus large en bas et pointue en haut. Ainsi, les enfants sont plus victimes que les adultes. Hein? Donc, à cause de ce genre de pathologie. Il y a les enfants dès la naissance. Si vous avez une maman qui est positive, vous courez. Enfin, nous, ce n'est plus le cas, mais l'enfant qui va naître d'une maman positive court le danger d'être infecté. Alors, le monde a imaginé de mettre en place un vaccin monovalent qui coûte malheureusement cher et qui n'est pas malheureusement encore disponible chez nous, qu'on donne à l'enfant dès la naissance. Mais il est vrai que le calendrier vaccinal existe. Et dans le calendrier vaccinal actuel, chez les enfants, on les vaccine dès 2 mois, 3 mois.
Comme on le fait contre la tuberculose.
Absolument. Hein, oui, ainsi de suite. Et donc là, il y a... Mais il faut, pour contre les hépatites, monter plus haut. Dès que l'enfant est né, on doit pouvoir lui donner ces vaccins monovalents contre le virus de l'hépatite B, par exemple, parce que c'est un moyen de couper. Alors, qui sont encore victimes de ça? Des gens qui se droguent à la seringue.
À la seringue.
Eh ben, ces gens-là sont victimes de choses parce qu'ils s'échangent des seringues qui sont utilisées par plusieurs personnes. Parmi ces plusieurs personnes, si 10 personnes sont contaminées, bon, il y a les 10 personnes qui vont contaminer aussi les autres. Il y a cela, il y a le danger que nous courons tous les jours, nous qui nous coupons les cheveux, c'est d'aller chez le coiffeur qui va utiliser une lame de rasoir qu'il n'a pas désinfecté, qu'il n'a pas voulu jeter parce que bon, il n'a pas assez d'argent pour acheter une autre, s'il n'a pas bien désinfecté ça.
Donc toujours bien veiller aux objets tranchants qu'on utilise.
Absolument. Non seulement bien veiller, oui. Mais quand vous allez chez le coiffeur, prenez votre propre lame de rasoir, prenez votre ciseau vous-même et faites-vous coiffer les cheveux.
Ou alors, rassurez-vous que c'est une lame de rasoir neuve qui n'est pas utilisée. Il faut vous rassurer.
Il vaut mieux amener votre... Parce que qu'est-ce qui se passe, par exemple, pour les seringues à usage unique? Bah, y a certains infirmiers qui récoltent toutes les seringues qu'on a utilisées à l'hôpital, qui les nettoient, soi-disant, et puis qui les fait semblant de mettre dans des papiers. Vous savez qu'on peut tout faire actuellement avec tout. Et puis, ils ont ça dans leur centre. Et ils vont vous donner des médicaments à travers ça. Si par hasard ces seringues ne sont pas bien stérilisées, vous allez pouvoir être infecté. Et donc, à chaque jour, à chaque moment, quand on vous dit que chaque mois, il y a 1 million de personnes qui meurent, c'est vous dire que le danger est permanent. Il est permanent. Il faut vous faire dépister. Parce qu'alors, on sait pouvoir vous éloigner de la maladie ou vous empêcher d'aller vers la maladie.
099-706-9941, c'est le numéro auquel vous pouvez nous laisser un message vocal si vous voulez intervenir dans ce sujet où nous sommes en train de parler de ce qu'il faut faire pour prévenir les hépatites virales en RDC. J'insiste, faut pas appeler, faites-nous seulement un message vocal à ce numéro, les 099-706-9941.
Propose à partir du lundi 17 juillet sur sa bande FM et sur ses plateformes digitales des dossiers, reportages, interviews, portraits, magazines et émissions spéciales aux couleurs des 9e Jeux de la Francophonie qui auront lieu à Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2023. que les 9e Jeux de la Francophonie ne soient pas qu'un simple jeu.
Voilà, on va lire ce message de KK Kabasele depuis Kananga, c'est sur la page Facebook Okapi Service. Il nous écrit ceci, la conscientisation, la sensibilisation des populations sur les facteurs de risque par des professionnels de santé de qualité et à travers des médias et réseaux sociaux contribuerait aussi à la prévention des hépatites virales en RDC. Voilà, lui il parle de réseaux sociaux, il parle de professionnels de santé de qualité aussi.
Absolument, il faut connaître pour pouvoir transmettre, hein. C'est pas n'importe qui va commencer à parler des hépatites, parce que je vous dis que dans des enquêtes qui ont été faites pour la population quinoise par exemple, l'hépatite c'est seulement l'alcool. Or, voilà que nous sommes en train de parler de l'hépatite qui viendrait des virus.
Des virus.
Alors, et les virus, beaucoup de gens ne savent pas. Dans notre pays ici, lorsque vous faites un peu de fièvre, parce que c'est un des signes dont je vous ai parlé tout à l'heure, on va vous dire que, bon, voilà, c'est un paludisme ou c'est une fièvre typhoïde. Vous comprenez? Et donc, il faut des gens qui connaissent et il faut pas seulement être très intelligent dans la médecine, hein, parce que nous avons des relais communautaires qui sont vraiment très bien formés. Effectivement, il faut qu'ils transmettent le même message. Donc, si vous voulez vous joindre à la lutte et que vous sentez que vous avez cette capacité de parler aux uns et les autres, venez vous faire former. Et d'ailleurs, nous allons organiser des formations dans les zones de santé pour que ceux qui vont porter le message parlent de la même chose, parlent de la chose. Parce que sinon, c'est une cacophonie et on a vu ce qui s'est passé avec le Covid. Hein. Bon, les gens ont cru, d'autres n'ont pas cru, etc. Oui. On a vraiment besoin que nous partagions la même vision sur la lutte et nous identifions l'ennemi, que tous nous sachions que c'est le virus B et le virus C. Et nous allons donner comment faire en sorte que on sensibilise tous les gens de la même façon.
Docteur, vous avez parlé de la formation, c'est vraiment très très intéressant. Alors, est-ce qu'on peut savoir lorsque vous allez organiser ces formations qui peuvent être admis à ces formations, c'est-à-dire quels sont les critères pour bénéficier de ces formations et puis intégrer ces travail intéressant de sensibiliser la population contre les hépatites virales.
Alors, dans l'organisation de notre pyramide sanitaire, oui. Nous avons les aires de santé. Dans les aires de santé, il y a des personnes volontaires et qui viennent se former au niveau de la zone de santé. Par exemple, quand vous avez des campagnes pour le vaccin contre la rougeole, etc., etc., ces gens sont d'abord formés à la zone de santé grâce aux programmes concernés. Une fois qu'ils sont formés, alors ils vont dans les aires de santé. Dans les aires de santé, ils vont donner l'information, ils vont recueillir les informations et ils vont former les gens sur place sur telle ou telle pathologie, comment faire pour l'éviter. Alors, après l'aire de santé, il y a le centre de santé. Les centres de santé, là, vous avez trouvé une infirmerie et c'est là que les infirmiers, au premier niveau, vont pouvoir éduquer les gens avec des méthodes tout à fait accessibles à la population. Et une fois que vous avez été reconnu porteur de telle ou de telle maladie, dans la zone de santé, il y a un laboratoire qui peut faire les tests, par exemple pour l'hépatite B et C, nous avons ce qu'on appelle des tests rapides, les tests de dépistage rapide, et ça c'est comme on fait les gouttes épaisses, on prend une goutte de sang de votre doigt et puis on met dans un kit et le kit va être positif ou négatif. S'il est négatif, bon, vous avez moins de chances d'être contaminé, mais s'il est positif, on va faire des tests des ELISA, comme on appelle, pour identifier quel est le virus que vous avez. Alors, ce sera le B ou le C. On appelle ça des tests sérologiques, et ces tests vont donc confirmer la présence ou non du virus. Et une fois que c'est positif, alors on vous met dans le processus de prise en charge où vous allez aller jusqu'au traitement. Et même au traitement, vous allez accéder à d'autres tests tests de troisième niveau qui vont vous permettre de quantifier le nombre, la quantité de virus que vous avez et de pouvoir permettre un suivi médical pour pouvoir voir si le traitement a réussi ou pas.
Ah, pour ceux qui aimeraient bien intégrer ce projet pour au biais du programme national de lutte contre les hépatites pour sensibiliser, il faut absolument être un professionnel de santé.
Pas nécessairement. Il faut être un être humain et qui aime et qui sait que ce qu'il fait de bien pour l'autre, c'est celui-même qui va le faire. Et donc, il suffit d'être une personne de bonne volonté.
Ah, parce que vous avez évoqué le traitement. Le traitement, il est chirurgical, il est c'est sous forme médicale, de médicaments, ou bien c'est comment le traitement,
oui,
de manière générale.
C'est sous forme de médicaments, oui. Généralement sous forme de, il y a les vaccins, oui, contre la transmission du virus, mais les autres, quand vous êtes positif, c'est surtout des médicaments qu'on donne. Bon, je cite pas le nom parce que
exactement,
ça c'est fait pour les spécialistes, oui, et oui, éviter les automédications.
Oui.
Mais il y a le médicament pour le virus de l'hépatite B et des médicaments pour le virus de l'hépatite C.
Alors, vous allez réagir à cette question de Christ depuis le Cassis. Ensuite, vous allez faire un message en lingala pour ceux qui aimeraient peut-être aussi comprendre certaines choses qu'on a abordées dans ce magazine par rapport aux hépatites. Ça c'est Christ de Pelicassi, il dit ceci: je veux savoir comment prendre soin de soi pour ne pas être infecté par les hépatites virales.
Eh ben, d'abord, avant de répondre, Christ, je voudrais dire félicitations pour le Katanga, parce que hier, j'ai assisté à une session vidéo sur la prise en charge des hépatites, et je sais qu'il y a une organisation, je ne sais plus laquelle, qui a commencé les dépistages dans le Katanga. Vraiment félicitations. Alors, comment faire pour que on puisse éviter d'être contaminé? Mais ce que vous avez fait maintenant là, c'est d'écouter Radio Okapi. Une fois que vous l'avez écouté, vous entendez tout un tas d'informations, notamment sur le virus de l'hépatite B et ou C. Et maintenant, vous savez que il n'y a pas le virus de l'hépatite, c'est concernant le virus plutôt. C'est eux qui vont provoquer l'hépatite, mais il y a aussi d'autres sources, c'est l'alcool, c'est certains médicaments, c'est certaines plantes, etc. C'est pas ça notre sujet d'aujourd'hui. Et donc, écouter la radio au Kwapi va vous permettre de savoir. Alors, une fois que vous savez que vous ne connaissez pas votre statut à vous, vous devez absolument participer aux campagnes de dépistage qui généralement sont plus ou moins gratuits. Et donc, s'ils sont gratuits, vous pouvez aller, même s'ils sont payants. Qu'est-ce que ça coûte, $5, par rapport à votre santé? Et donc, vous allez vous faire dépister. Et une fois que vous êtes dépisté, vous allez pouvoir faire en sorte que vous répandiez la nouvelle autour de vous, dans votre famille d'abord, que chacun aille se faire dépister. Une fois qu'on est dépisté, il y a des structures médicales qui existent et qui permettent que on puisse traiter avant qu'il ne soit trop tard. Parce que quand vous venez déjà avec une cirrhose, quand vous venez déjà avec un cancer, oui, nous allons pouvoir éliminer le virus, mais les conséquences sont déjà là. Et là, on est palliatif, on ne sait pas arranger les choses, sauf si on améliore notre médecine. Il est possible maintenant de pouvoir remplacer le foie, mettre un nouveau foie bien nouveau, mais avant de le remettre, il faut d'abord éliminer le virus dans le corps de celui qui va recevoir ce nouveau foie. Mais
alors, voilà. Bon, alors, docteur, rapidement, parce que le projet RDC est au long à hépatite, parlez un peu de ce projet.
Oui.
Rapidement, Lingala.
Ok, rapidement. Tokolonga hépatite, c'est-à-dire Tokolonga bitumba ya hépatite.
Hépatite
ezali pota ya libumute, mais pota ya foie. Foie ezali eloko moko, organe moko tozana ngona kati ya nzoto na biso, parmi les plus importants. Makamo nyonso yo toza biloko nyonso toza kolia et koleka na niveau ya foie poids et se transformer na ba vitamine. Alors, ce qui foie ezali mabe, alors na tangwana okuki kokufa na naba malade ndenge na ndenge. Alors, virus ezali microbe ekozwama na makila. Makila ya mutoyo azali nango toloba mama soki azali na virus wana akuki kopesa na mwana. Soki ozali mwasi na mobali moko na bino azali nango bokuki ko kopesa moninga virus wana. Par exemple, soko zwi makila ya mutoyo azali na virus akuki ko pesa yo makila. Donc à travers makila na ndenge na bovandi ya mwasi na mobali na bobotami na bokeni na ba coiffeur etc. nyoso wana ekoki kosala ke okoma na virus na koti ya nzoto na yo. Et donc soki oyoki maloba oyo touti oloba sikoyo, sala nyonso okende na centre de santé to na hôpital moko ezali pene na yo, batala na makila na yo soki ozali na virus yango na makila to te. Soki ozali nango il faut bakisi ezali. Soki ezali te, bakoki kopesa yo vaccin ya virus contre ya virus ya hépatite B. Donc wana bandeko ezali moi muke na ingana
ifisa na ingala. Donc on va écouter rapidement Idam qui j'espère que le réalisateur peut rapidement nous passer à ces sons de Claudia qui a réagi depuis Colosi. Je pense que c'est prêt. Apparemment, c'est pas prêt. Désolé pour Madame Claudia du Colosi. Alors, il y a cette réaction sur la page Facebook avant la transfusion sanguine. Est-ce qu'on procède au test de l'hépatite comme dans nos hôpitaux, surtout ceux de communautés rurales? Et ça sera la dernière question.
Avant la transfusion, non. On va procéder effectivement. On doit s'assurer que le sang qu'on va donner, c'est un sang qui n'a pas le virus ni de B ni de C. Oui. C'est plutôt le chose. Avant les transfusions, aller tester chez la personne, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais c'est surtout le sang qu'il va recevoir, est-il libre des virus, oui ou non. S'il y a le virus là-dedans, il ne faut pas les transfuser. Par contre, quelqu'un qui a le virus, mais qui a besoin de sang, on doit le transfuser parce qu'il a besoin de sang.
Docteur Tchamala Pascal, coordonnateur du projet RDC Tokolonga Hépatite, merci d'avoir été des nôtres. En tout cas, vous serez toujours les bienvenus dans ce magazine au Capi Service pour sensibiliser la population par rapport à cette maladie qui est peu connue mais qui fait des ravages. Il s'agit en tout cas de ces maladies, j'allais dire des hépatites virales en RDC. Merci d'avoir été des nôtres. On espère vous retrouver prochainement.
Merci beaucoup.